J'ai entendu parler de Joseph Mengele pour la première fois à l'occasion d'un voyage à Auschwitz avec l'Union des déportés d'Auschwitz en 1981. Les anciens déportés, qui savaient que je commençais mes études de médecine, m'ont relaté ces actes criminels dont ils avaient été témoins. Ces hommes et ces femmes conservaient tous le souvenir terrifiant et obsédant de ce médecin SS qui avait la réputation d'être le plus impitoyable et le plus monstrueux du camp d'Auschwitz-Birkenau. Dans leurs témoignages, ils insistaient tous sur sa démesure, son zèle, sa brutalité, mais aussi sa vanité, son raffinement et son attitude soignée. Il restait pour eux, qui avaient connu l'horreur, la figure emblématique du mal absolu, cet ange de la mort, Todes Engel, qui avait ôté la vie à tant d'autres déportés. Jusqu'au 30 mai 1943, date à laquelle Mengele fut transféré à Auschwitz en tant que médecin SS, rien dans les 32 premières années de sa vie n'aurait permis de supposer qu'il deviendrait un monstre cruel et sans pitié. La période de 19 mois pendant laquelle il a été affecté dans le camp d'Auschwitz a suscité de nombreuses questions et bien peu de réponses. Comment un jeune médecin promis à un brillant avenir et dont la famille n'avait pas subi les affres de la crise économique de l'Allemagne de Weimar a-t-il pu devenir un nazi convaincu pratiquant la médecine au service d'un régime totalitaire? Pourquoi a-t-il été affecté comme médecin SS dans le camp d'Auschwitz-Birkenau? Comment a-t-il pu envoyer vers les chambres à gaz des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants sans aucun état d'âme apparent? Était-il un être cynique sans âme, ou un sadique brutal, ou les deux à la fois? Comment a-t-il pu prendre part activement à des expérimentations horribles sur des êtres alors qu'il était conscient de l'effondrement imminent du régime hitlérien? Les institutions universitaires allemandes étaient-elles au courant de ces protocoles expérimentaux monstrueux? Pendant ces 34 années de cavale, Joseph Mengele n'a jamais exprimé de regrets et n'a jamais compris pourquoi il devait se sentir coupable d'avoir voulu se débarrasser de ce qu'il appelait « des vies indignes ». Dans une conversation avec son fils, Joseph Mengele lui a déclaré « Sur la vie de ma mère, je n'ai jamais fait de mal à personne ». Il n'a jamais cessé de se lamenter amèrement sur sa situation et s'est toujours considéré comme une victime d'un acharnement de la part de la justice allemande, rappelant à plusieurs reprises « Il n'y a pas de juge, seulement des vengeurs ». La cavale de celui qui est considéré comme le plus grand serial killer de l'histoire a fait l'objet d'un nombre incalculable d'articles de journaux à sensation, fourmillant de récits tout aussi incroyables qu'abracadabrants. Comment a-t-il pu échapper aux services secrets israéliens, américains et allemands, ainsi qu'à tous les chasseurs de criminels nazis? A-t-il bénéficié de l'aide d'un réseau nazi en Amérique du Sud? Quel a été le rôle de sa famille, richissime propriétaire d'une entreprise de vente de matériel agricole particulièrement prospère en Allemagne? Dans quelle mesure une omerta s'est-elle établie sur le sort de Mengele dans sa ville natale de Günzburg, comme l'avait remarquablement montré Claude Lanzmann dans un documentaire réalisé le 5 juillet 1979 devant l'usine familiale?